Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'enregistrement d'une rencontre autour de la thématique l'égalité filles-garçons dans l'éducation et la pratique musicale, de la petite enfance vers l'enseignement supérieur. Cette rencontre est en partenariat avec l'association More Women on Stage, qui est une association mettant en avant la place des femmes devant et derrière la scène. Cette rencontre est avec trois intervenantes, Lola Frichet, bassiste dans le groupe Pogo Car Crash Control et présidente de l'association More Women on Stage, Marine Mercier-Landry, trompettiste et enseignante au Conservatoire de Cavaillon, et Mélanie Demaria, guitariste, claviériste, professeure de chant et chanteuse. Nous sommes l'association AVEC, nous avons pour but de mettre en avant les territoires ruraux en lien avec la culture, la musique et la jeunesse. L'association se situe à la gare de Croustelet, dans le Vaucluse. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes. Cette émission est divisée en quatre parties. La première partie évoque l'égalité femmes-hommes dans la société et le secteur musical à travers des chiffres clés et des dates marquantes.
Pour commencer, je voulais un petit peu, tout de suite commencer par la France, je voulais mettre un petit exemple du monde. Des chiffres clés. Donc j'ai mis je trouvais ça intéressant de mettre ce graphique. Bon, c'est un graphique qui date de 2014, mais qui dit que sur 143 pays sur 195 garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur constitution. Mais pourtant, on se rend compte que les discriminations contre les femmes persistent directement et indirectement. Donc on le voit notamment dans tout ce qui est les lois et la politique. De toute façon, on va l'aborder, qu'il y a plein de lois qui prônent l'égalité femmes-hommes, mais que dans la réalité, dans la société, ce n'est pas forcément le cas. Il y a toute la question des stéréotypes liés au genre et aussi les inégalités dans tout ce qui est normes et pratiques sociales. Donc, je trouvais que cette phrase qui disait « L'égalité des sexes devant la loi ne signifie pas nécessairement que les femmes bénéficient de chances égales dans la pratique. » Et je trouve que c'est quand même une phrase assez marquante parce que c'est totalement vrai, quoi. C'est totalement vrai et c'est assez impressionnant. Donc, au niveau des... J'ai remis, en fait, quelques dates et lois. Hein, donc, ça, vous aviez pu le voir aussi sur le document, c'est pour montrer aussi qu'il y a des lois, c'est récent. En fait, c'est quand même, elles sont récentes et on se rend compte avec tout ce qui se passe dans le monde que c'est jamais acquis, malheureusement, qu'il faut toujours se battre et qu'il y a des personnes, si on a ces droits actuellement, c'est parce qu'il y a des personnes, et notamment des femmes, qui se sont battues pour les obtenir. Donc voilà, c'est toujours important de pouvoir...
Ça fait seulement 58 ans qu'on a le droit d'avoir une carte bleue.
Exactement. Ça fait peur. Donc là je remettais qu'en 1944 notamment le droit de vote ça a été appliqué en 1945, mais ça faisait plusieurs années que les hommes avaient le droit de vote. C'était marqué droit universel, mais bon, c'était quand même exclusivement masculin, faut pas aller trop vite non plus. Après il y avait donc le préambule, donc ça c'est le préambule de la Constitution, ça date de 1946. Je trouvais ça intéressant parce que la phrase, c'est « La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. » Et on voit qu'après, dans la Constitution de 1958, la phrase dit « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Donc voilà, c'est fou de voir que ça date de 1958, cette Constitution, et que c'est toujours pas d'actualité. Est-ce que vous saviez un peu tous ces chiffres? Vous étiez un petit peu au courant de que c'était aussi récent, en fait?
Oui.
Ouais, moi je les mélange toujours un peu, mais je vois toujours à peu près la période sur laquelle on peut porter des pantalons, on peut avoir un compte à la banque et où on peut surtout. Surtout le droit à l'IVG, tout ça. Donc c'est vrai que je vois, c'est cette zone-là. Alors on voit que ça a bougé dans ces années-là, mais parce que il y a des gens qui se sont battus, quoi. C'est pas, derrière ces lois, il y a des gens qui ont transgressé toutes les lois et c'est fou que ça ait pris autant de temps, quoi. Mais c'est jamais acquis, comme tu dis.
Donc comme tu disais, Mélanie, 65 droits sur l'émancipation financière. Donc c'est vraiment qu'en 1965 qu'il y a une loi qui autorise les femmes à ouvrir un compte bancaire en leur nom. Et aussi à pouvoir travailler sans le consentement de leur mari, ce qui n'était...
Après, c'est en rapport aussi avec les guerres. Du coup, les hommes n'étaient plus là. On s'est retrouvés, nous aussi, à gérer les villages. Et il y a eu... c'est aussi un fait qu'en fait on peut très bien gérer, en fait ça a été indéniable finalement après, historiquement, bah oui, en fait on peut gérer, en fait on peut faire des choses, et mais c'est quand même dingue qu'il y ait des lois qui soient écrites et que ouais, de lire à travailler sans le consentement du mari, enfin c'est incroyable quoi.
Alors, les années 70, c'était important de pouvoir le mettre en avant parce qu'on parle notamment des fois de plusieurs vagues de mouvements féministes. Il y a eu la première vague avec toute la question du droit de vote pour les femmes. Mais il y a aussi la vague avec, comme tu disais Lola, toute la question de l'IVG, hein, interruption volontaire de grossesse. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui se sont développés dans les années 70 dans le monde entier. Hein. On parle des États-Unis avec notamment un mouvement qui s'appelle le Woman Lib. En France, on se rappelle aussi du MLF, un mouvement de libération des femmes. Et je vous ai mis aussi un petit exemple, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec un peu le secteur musical. C'est l'exemple du Woman Music. Donc, c'est un mouvement qui a été initié aux États-Unis, qui a été mis en place par des femmes afro-américaines, lesbiennes, militantes, et qui était vraiment un mouvement qui mettait en avant les œuvres artistiques féminines. Qui se voulait aussi un mouvement pour les femmes et qui parlait aussi des sujets que pouvaient aussi des sujets qui pouvaient toucher les femmes et de tout ce qu'elles pouvaient vivre sur plein de points de la société. Et je trouvais ça vraiment intéressant, et c'était pas seulement des musiciennes, ça mettait aussi en avant des professionnels du secteur musical. Donc ça aussi, tout ce qui pouvait être la question des femmes dans la direction, les femmes dans la technique et tout ça. Donc voilà, ça date de 70, mais il y avait vraiment déjà ce mouvement musical, militant, qui était prôné notamment aux États-Unis. Donc, après, on a une loi en 72, donc ça, c'est la loi relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En 75, on a la loi Veil avec l'IVG, dépénalisation de l'avortement en France. Quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, on se dit que ouais, ça fait peur, et il y a encore beaucoup de choses un petit peu vraiment à changer, quoi, à bouger. En 83, donc, on a la loi dite Rudy, donc c'est une loi qui est relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et notamment dans les emplois publics. Et ça va être intéressant parce qu'après on va comparer avec un petit peu les chiffres actuels, et on va se rendre compte que c'est pas encore ça, quoi. Voilà. 86, donc ça, c'est ça parle de la féminisation des noms, des métiers, fonctions et grades dans l'administration et les textes officiels, parce qu'il a été prouvé que il y avait déjà une féminisation des noms, des métiers qui était faite depuis bien longtemps, mais qui a été après ensuite invisibilisée. Ça a été un petit peu oublié, notamment aussi on parle de l'Académie française, enfin des choses comme ça qui parle de la langue française, mais des fois, il y a des choses qui ont été complètement mises de côté parce qu'on disait que le masculin l'emportait. C'était peut-être plus simple de faire comme ça que de vouloir féminiser des fois les noms ou les métiers, quoi. 2000, ça, j'ai trouvé ça hallucinant. 2000, c'est l'amendement gouvernemental pour lever l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Donc, ça date seulement de 23 ans, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes. Et ouais. Non, c'est vrai que quand j'ai vu cette date-là, je me suis dit, j'étais vachement, ça m'a scotché, quoi, de voir que c'est aussi récent.
Mais ils avaient oublié. C'est un oubli.
Après, je trouvais ça intéressant au niveau des années 2000. Il y a vraiment eu des droits, des lois aussi, qui se sont développées sur toute la question des violences sexistes et sexuelles. Envers les femmes. Donc il y a eu de plus en plus d'enquêtes qui ont été ouvertes. Donc là, je parle de l'enquête nationale qui a été ouverte en 2001, ce qui a permis aussi de créer en 2004 la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et il y a aussi de plus en plus maintenant de plans de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'est des plans. Alors là, je ne sais plus à combien on est de plans, mais il doit en avoir. On est peut-être au 7e ou 8e plan. Donc à chaque fois. Sur plusieurs années, voilà, il y a de nouveaux plans de lutte qui sont développés par le gouvernement et qui permettent de travailler sur certains points, sur toute la question des violences faites aux femmes, quoi. 2014, donc ça, c'est la loi pour l'égalité réelle. Ça s'appelle l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et Notamment, cette loi, elle travaille sur 5 points particuliers. Donc, il y a toute la question, la première, sur l'égalité des femmes et des hommes dans la vie professionnelle. La deuxième, c'est sur toute la question de la précarité, parce qu'on se rend compte que la précarité, notamment au niveau des... Ça touche notamment beaucoup davantage de femmes, et aussi, il y a toute la précarité qui est tout autour. On parle des fois aussi de la précarité menstruelle, hein, aussi, c'est une réalité. Il y a la question aussi de tout ce qui était violence... toutes les personnes victimes de violences et toute la question de l'atteinte à la dignité et à l'image à raison du sexe dans le domaine de la communication. Donc ça c'est quand on parlait de toutes les questions du revenge porn, ou tout ce qui se fait un peu maintenant aussi avec le deepfake où on met la tête de femmes sur des contenus des fois pornographiques et comment voilà ça peut aussi détruire des femmes. Donc il y a eu vraiment un dispositif spécial là-dessus. Parce que ça s'est développé avec aussi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est aussi au niveau d'Internet, quoi. Donc c'est des nouvelles dispositions qui se mettent en place avec le temps. Il y a toute la question aussi des relations femmes-hommes dans leurs relations avec l'administration. Donc comment on accompagne notamment les femmes dans tout ce qui est administratif. Et après, il y a l'objectif constitutionnel de parité. Donc ça, c'est une loi qui date de 2014. Voilà, voilà. Et là, après, on va bientôt finir dans les dates, notamment sur toute la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, en parallèle, je trouvais ça intéressant de montrer ce qui se passe dans les Nations Unies. Les Nations Unies, elles ont développé un programme à l'horizon de 2030 sur la question d'éradiquer la pauvreté. Alors, on voit des fois avec ce qui se passe que, on veut que d'ici 2030, il n'y ait plus de pauvreté ou il y a tout dispositif sur l'écologie et à chaque fois, ça... Ça se retarde au fur et à mesure, donc voilà. Et ce programme, il avait 17 objectifs sur la question du développement durable, et notamment son 5e objectif parle de l'égalité entre les sexes, parce qu'on se rend compte aussi qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le dérèglement, tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, de l'écologie, ça aussi, ça touche, comment ça peut toucher aussi les femmes et les enfants, tout ce qui est autour de ça, quoi. 2017, il y a l'affaire Weinstein qui s'est passée avec une libération massive de la parole des femmes, même s'il y avait déjà une libération de la parole des femmes, mais là ça s'est vraiment diffusé partout dans le monde avec le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton porc notamment, mais il y a plein de hashtags après qui se sont diffusés dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif, hein, voilà, ça a vraiment libéré la parole des femmes. Et je voulais aussi mettre en avant un plan donc, qui date du 8 mars 2023. 2023, donc c'est très récent. C'est le plan égalité 2027 entre les femmes et les hommes. Et c'est axé sur 4 grands axes donc, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes, la question de la santé des femmes, la question de l'égalité professionnelle et économique et la question de la culture de l'égalité. Donc voilà, donc ça c'est 4 grands axes qui ont été mis en avant par le gouvernement. Donc après on verra les faits. En fait, c'est vraiment la question des faits, c'est ce qui va vraiment se mettre en place par la suite. C'est ça qu'on a envie de savoir. Je sais pas, est-ce que vous avez des est-ce que en regardant toutes ces dates, en regardant toutes ces lois, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit ou pas, ou que vous avez envie de partager ?
Moi, c'était une question par rapport aux grands axes là, de la loi. Mmh. C'est pas hiérarchisé. On parle de la lutte contre les violences faites aux femmes de la même manière dont on parle de la santé des femmes. Okay. Je me demandais, parce que quand tu as parlé de la loi de 2014 et que tu vois que c'est les violences faites aux femmes, en premier, c'est fou que ça soit toujours le premier volet le plus important encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, on s'est penché dessus il y a que 20 ans, en réalité. Donc, non, j'ai dit 2014, pardon, c'était 2004, je crois. Ouais.
Non, c'est là que j'ai mis les 4 grandes axes. Voilà, okay. Y a pas de hiérarchisation, mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on met en valeur, parce que comme on dit, il y a de plus en plus de plans de lutte qui sont développés et tout ça, et je trouve que c'est très bien de pouvoir mettre cet axe en avant. Après, c'est vraiment dans la réalité des faits de voir comment le gouvernement met en place des dispositifs pour vraiment accompagner ces femmes qui sont victimes de violences. Et des fois, quand elles vont dans les commissariats pour vraiment porter plainte, comment leurs dispositions, des fois, ne sont pas prises. Et c'est souvent ce qui ressort, des fois, avec toute la question des féminicides. Hein, c'est qu'il y a des femmes qui sont venues déjà plein de fois dans les commissariats porté plainte et c'est comment on n'a pas du tout accueilli leur, leur parole. Donc je me dis, c'est horrible. Enfin, la violence qu'elles vivent physiquement et psychologiquement, et aussi comment, bah, en plus, bah, le fait de mal les accompagner, ça rajoute de la violence, quoi. Donc voilà. Et pour faire le lien avec toutes ces dates et toutes ces dates sur l'égalité femmes-hommes, je trouvais ça important de faire le lien avec les chiffres clés actuels pour voir en fait la réalité, hein, voir si vraiment ça, ce qui se passe en vrai. Donc ça, c'est des chiffres clés actuels que j'ai tirés du... donc ça, c'est au niveau tout ce qui est législation gouvernement. Donc c'est les chiffres clés édition 2022. Vers l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est tout un document. Donc, si vous voulez aller voir, c'est hyper intéressant. On voit tous les chiffres clés. Enfin, j'avais envie de parler de tout, mais on ne pouvait pas. Donc, j'ai pris un peu des focus. Et quand on parle notamment de l'égalité professionnelle et salariale, voilà, donc là, c'est un graphique, un document qui dit qu'en 2019, à travail égal, les femmes gagnent 16,1% de moins que les hommes. Donc, on se rend compte que dans les faits, c'est toujours pas d'actualité, quoi.
Est-ce qu'on sait si cette différence, elle a déjà été justifiée autrement que par le genre Est-ce qu'on sait ça ou...
Je pense qu'il y a des choses qui rentrent en compte en dehors du genre. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui est social aussi, voir aussi de catégorie. C'est vrai que tout ce qui est social. Selon comment la sociale, l'éducation, voir comment si tu as été accompagné, tu as peut-être des gens, si tu es de classe, il y a un truc avec classe moyenne, classe populaire, classe plus aisée, voir aussi comment tu as été au niveau des études. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais on se rend compte que quand même la question du genre, ça implique déjà beaucoup de choses, notamment sur comment au niveau des études tu vas être accompagné, comment après les postes que tu vas pouvoir prétendre et les salaires aussi, la question de la légitimité, est-ce que les femmes des fois elles vont pas se sentir légitimes à accéder à ce genre de poste, donc ça rentre en fait
partout. La question parce que justement il y a écrit à travail égal, donc pour moi j'imagine le même poste. Mmh. Enfin voilà, après c'est sûrement un truc de savoir pas se vendre, mais aussi ou alors revendiquer un certain salaire, quoi.
Okay. Mais
il n'y a pas tant de justification, quoi, de pourquoi travail égal.
Non, là c'est vrai que là c'est pas forcément justifié au niveau de ce chiffre, mais c'est vrai que au niveau du document ça doit être un petit peu plus poussé. Enfin voilà, il y a vraiment une question, comme je te disais, sur toutes ces questions autour du genre, mais pas que, vraiment aussi catégorie sociale, sur plein, ouais, je pense sur plein de points importants, quoi. Il y avait un autre chiffre que je trouvais assez fou, c'est la raison principale du temps partiel par sexe en 2020. Donc il y a une différence avec des pourcentages entre femmes et hommes. On se rend compte que moi vraiment, c'est pour ça que je l'ai entouré en noir, il y a un chiffre qui est quand même assez important. C'est, on se rend compte que alors c'est pourquoi les personnes sont en temps partiel. Pour 50,8% pour les femmes, c'est pour des raisons personnelles ou familiales. Et dans ces 58,8%, il y a 26,1% qui est pour s'occuper des enfants ou d'une personne dépendante, contre 32% pour les hommes et seulement 5,8% pour s'occuper des enfants ou d'une personne dépendante. Donc on se rend compte que voilà, le temps partiel, il y a encore beaucoup de femmes qui sont en temps partiel pour une diversité de raisons, pareil que pour les hommes, mais on se rend compte que quand même le chiffre, il est vraiment important pour des raisons personnelles ou familiales, et notamment une grande part pour s'occuper des enfants ou d'une personne dépendante, parce que c'est vrai que c'est encore très ancré dans la société, que c'est quand même la femme qui doit être en charge de tout l'aspect familial, de tout ce qui est ménage, et c'est vrai que moi ça m'a vraiment choqué la différence de pourcentage, notamment sur s'occuper des enfants d'une personne dépendante, quoi. Donc après il y a d'autres choses, hein. Il y a la question de suivre des études, de compléter d'autres revenus, mais ce chiffre est quand même assez conséquent. Après, donc voilà, j'ai mis vraiment, j'ai mis que quelques exemples sur la question de la société, enfin tous les chiffres un peu clés sur l'égalité homme-femme dans la société. Et après, je trouvais intéressant de faire le lien, le parallèle avec le secteur musical. Donc là, moi, j'ai tiré des chiffres du rapport du Centre national de la musique, qui date de 2023. Donc c'est notamment, ayant assisté aux assises égalité femmes-hommes dans la musique à Marseille, il y avait notamment ce rapport qui était un petit peu expliqué. Donc moi, ça m'a vraiment surpris dans les chiffres, c'est sur 8500 entités artistiques de musique et de variété. Donc c'est hors festival, c'est tout ce qui est plutôt salle de lieu culturel. Il y a 62% de leads masculins pour seulement 17% de leads féminins. Et après, on a 21% de leads mixtes. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on se dit... On se dit, ah oui, mais on voit plein de femmes maintenant dans la variété, dans la pop. On voit plein de femmes qui sont présentes dans les programmations et c'est super. C'est vraiment bien qu'on puisse les mettre en avant et qu'elles puissent vraiment se développer. Mais en fait, dans la réalité des chiffres, on se rend compte que c'est vraiment minime en fait par rapport au reste des artistes et des groupes d'hommes en fait, des groupes masculins. Voilà. Et je voulais notamment faire la transition avec tout ce qui est musique actuelle. On se rend compte que la répartition du genre du lead, elle est... Au niveau des esthétiques, il y a vraiment quand même des grandes différences. Et notamment, il y a trois esthétiques où il y a une énorme différence entre le lead féminin ou le lead masculin. C'est toute la question du pop-rock. Il y a seulement 14% de lead féminin contre 76% de lead masculin. Au niveau des musiques électroniques aussi, il y a 11% de leads féminins contre 75% de leads masculins. Et au niveau du rap et du hip-hop, il y a 10% de leads féminins contre 88% de leads masculins. Donc je trouve ça intéressant parce que voilà, comme je disais, oui, il y a de plus en plus de femmes qui sont programmées, il y a de plus en plus de musiciennes, d'artistes, mais en fait, dans les réalités des chiffres, il y a quand même une grande disparité, quoi. Enfin, c'est assez hallucinant au niveau des chiffres. Je sais pas si comment vous le ressentez, vous, si vous pouvez rebondir par rapport à vos projets. Toi, c'est ce que notamment Lola, ce que tu évoquais notamment quand tu t'es retrouvée dans de la programmation de festivals de rock ou de métal et que tu as vraiment vu cette différence en fait.
Oui, parce que là d'ailleurs, on parle de lead et c'est pour ça que ces chiffres sont importants sur le CNM. Et merci à eux de faire ce travail là, c'est cool. Par contre, c'est vrai que un groupe qui a une chanteuse va rentrer, et avec que des musiciens mecs derrière, va rentrer dans la catégorie lead féminin, donc va faire partie des 17%, alors que voilà, peut y avoir, ça se trouve, un mec chanteur et des meufs qui l'accompagnent. Donc c'est des chiffres à prendre avec une certaine pincette. Moi par exemple, dans Pogo, du coup, on va rentrer dans lead masculin. Et en soi, en tant que musicienne et compositrice dans le projet, il y a un peu de l'invisibilisation de ce côté-là. Il y a des tas de meufs qui composent de la musique et qui font partie de groupes. Et du coup, voilà, elles ne peuvent pas entrer dans ces chiffres. Après, c'est pas grave, c'est des premières études. Je pense que ça va évoluer aussi. On est beaucoup à faire de la musique en France, et tant mieux. Mais effectivement, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de chanteuses dans le métal. C'est, je pense, là où il y a le plus de musiciennes, je dirais. Et c'est très cool, mais c'est vrai que ça manque d'autres musiciennes qui pratiquent un instrument et je me sens très très seule. Mais c'est pas grave, on doit être genre, je sais pas combien de bassistes, 3 ou 4 bassistes dans le métal. On est super copines, françaises, hein, oui. Tu vois, j'entends. Mais voilà, on est copines, on se serre les coudes et puis on n'arrêtera jamais ce qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Et le but, c'est de donner envie à d'autres et de leur dire « Yo, vous avez grave votre place si vous voulez essayer. La basse, c'est chouette. » Voilà.
Et toi, Mélanie, comment tu... Est-ce que toi, ça t'étonne ? Est-ce que tu... Comment tu pourrais réagir face à ça ?
Non, ça ne m'étonne pas, mais... j'ai espoir aussi, je sais que ces chiffres, ils évoluent. Ils évoluent et on avance aussi dans les mentalités avancent aussi et évoluent. Et après, personnellement, moi, en tant que femme, Enfin, je ne me suis jamais empêchée de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, en fait, j'ai fait des métiers dits d'hommes, déjà avant dans l'artisanat et dans la musique aussi. Bon, même si je suis chanteuse. Voilà, chanteur aussi, on est un peu... Enfin, il y a une espèce de pas d'invisible, mais de digression un peu. Enfin, voilà, sur les chanteurs, quoi. On est un peu... Enfin, moi, j'ai déjà entendu, mais vous, les chanteurs, vous êtes des beats parce qu'on ne comprend rien, soi-disant, à la musique. Et je comprends ce genre de réflexion, même si je ne l'approuve pas du tout. Mais enfin, voilà, c'est des chiffres qui ne m'étonnent pas. Mais je garde l'espoir. Je sais que c'est en évolution. Et moi, je connais plein de copines musiciennes qui montent des projets aussi. Et j'ai plein d'anecdotes sur une copine batteuse qui arrive pour faire les balances, qui installe sa batterie. L'ingé son qui arrive, qui dit « Non, mais il a trop de la chance, ton batteur. Tu es en train de lui monter la batterie. » Donc, il hallucine. Il ne capte pas qu'en fait, le projet, il porte son nom à elle. Qu'en fait, elle chante, oui, mais en fait, elle joue aussi de la batterie. Il a continué à lui faire des remarques maladroites et pas réfléchies quand elle a fait les balances sur la batterie et qu'elle a chanté. Il a fait « Waouh, ouais, truc de fou !» Et jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle s'énerve et qu'elle lui dise « Écoute, lis la fiche technique, regarde le nom. » En fait, en bref. Donc voilà, je garde espoir, mais c'est bien voilà, que des études soient réalisées. Par contre, je n'avais pas conscience de ce que tu dis, de ce que tu viens de dire sur le fait que parce qu'il y a une chanteuse, et ben hop, le groupe, il passe en lead féminin, j'hallucine. Et en même temps, je me dis, bon, bah, c'est le jeu des statistiques.
Donc, vous comptez vraiment, vous, les chanteurs, les chanteuses? J'espère que ça te rassure.
Oui, mais en fait, moi, je me sens pas illégitime dans la musique. Et après, ouais. C'est vrai que je me suis formée aussi, pas forcément pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je me suis formée, c'est parce que j'en avais marre qu'on me prenne pour une bille. Et que je me suis dit, bon, ben là, il faut que je parle la même langue que mes collègues musiciens, en fait. Enfin, et même d'ailleurs que mes collègues musiciens, alors qu'en tant que chanteur, que chanteuse, je suis musicienne.
Bien
mais
sûr.
Donc, il y a un truc. Non, et finalement, après, j'étais ravie d'apprendre, quand même. Parce que, putain, la musique, c'est une science. On est devenus un peu des farfadés. Non, mais c'est vrai, la musique, à la base, c'est une science. Et aujourd'hui, c'est folklorique, en fait. C'est plus du tout le même domaine. Bon, enfin, bref, je suis en train de m'écarter de ta question, mais. Mais non, je garde espoir. Je sais que c'est des chiffres en évolution et voilà. En gros.
Marine, alors toi, t'es plutôt dans toute la question de musique classique. Donc moi, on va aussi en aborder aussi musique dans le jazz. Parce que là, c'est la musique actuelle, mais là, je vais aussi parler, évoquer le jazz et le classique. Et je te laisserai rebondir aussi là-dessus parce qu'on en a... On l'a déjà évoqué, et je pense notamment avec l'instrument que tu joues, tu as dû être aussi confronté aussi à ça. Donc là, j'ai mis aussi les chiffres pour le jazz et musique improvisée. C'est pour montrer que sur toute la question du jazz, alors ça, c'est des données 2018. Dans l'élite féminin, il y a une entité artistique, ça ne dépasse pas les 20%. Dans toute la question des festivals et scènes de jazz, il y a seulement 15% pardon, de lead féminin contre 85% de lead masculin. Bizarrement, on voit que c'est vraiment c'est très très peu, mais le chiffre qui est très important, c'est que au sein des ensembles, notamment au sein des ensembles de jazz, il y a 83% il y a beaucoup de femmes, en fait. Il y a énormément de femmes dans le chant, dans le jazz, contre seulement... alors là, ce n'est pas des chiffres qui sont forcément sur le graphique, mais ça veut dire qu'il y a énormément de femmes dans le jazz, dans le chant, contre très peu en tant que musicienne. Et le problème, c'est que dans le jazz, je m'appuie en fait sur une étude qui a été faite par Marie Buscato, qui est enseignante chercheuse dans la sociologie. Elle expliquait, en fait, elle dit que les compétences qui sont associées au chant, je la cite, sont souvent dépréciées dans l'univers du jazz et des musiques improvisées. Les instrumentistes ne les considèrent toujours pas comme des collègues à part entière. Donc ça, c'est des études qui datent de 2003 et 2007. Mais elle dit aussi, tandis que la maîtrise instrumentale, perçue comme plus technique, est associée aux hommes. Et c'est vrai que souvent, quand on regarde aussi tout ce qui est festival de jazz, on voit beaucoup de femmes en tant que chanteuses, alors qu'elles, même si elles pourraient être chanteuses et musiciennes, on voit quand même beaucoup de femmes au chant et beaucoup d'hommes, tout ce qui est dans la pratique musicale, hein, instrumentistes, musiciens. Et je trouve ça très bien qu'on puisse mettre en avant les chanteuses, mais c'est aussi voir comment on peut mettre aussi en avant les musiciennes. Et c'est comme s'il y avait une différence, en fait, un peu comme elle dit, on déprécie tout d'un coup le fait que, en fait, le chant contre l'instrument, alors qu'en fait, les deux ne devraient pas être dissociables. En fait, ça, c'est comme si l'instrument était plus, il y avait vraiment cette virtuosité, cette technique.
C'est le côté intellectuel.
Oui.
En fait, c'est ça. Enfin, je sais pas comment vous le voyez de votre côté, mais nous, vraiment, on passe pour des cruches ou on passe pour des. Enfin. Ça arrive en tout cas, parce que c'est pas le cas de tous les instrumentistes. Moi, il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui savaient très bien aussi ce que c'était que de chanter. Et en fait, faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens au chant qui déprécient aussi les instrumentistes, parce que ah quoi, tu peux pas me le mettre dans ma tona, plein de trucs. Enfin, on se rend. Enfin, c'est des manques de conscience des deux côtés, autant chez les instrumentistes que chez les vocalistes, alors qu'en fait, les deux sont pas comparables, que c'est autant difficile l'un que l'autre. Après, c'est vrai que moi, je chante depuis que j'ai 5 ans, et c'est vrai que j'ai pas eu besoin de faire du conservatoire. C'est des parcours différents, mais en fait, autant l'un que l'autre, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Bon, après, voilà, si vous voulez intervenir
En tant qu'instrumentiste. Moi, j'adore toujours ces questions, parce que, surtout quand on sait que le chant, c'est le premier instrument de l'homme, en fait. Je veux dire, la voix, c'est... Bah, c'est... Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Donc, et aussi, quand on sait qu'une voix à travailler et à garder en forme, c'est un travail de malade. Quand on est instrumentiste, on se pose pas la question. Enfin, moi, si j'ai la voix cassée, je peux quand même jouer de mon instrument, donc voilà. Je peux quand même assurer ma date, alors que un chanteur, une chanteuse qui a la voix cassée, c'est problématique, en fait. Donc voilà, je trouve ça toujours très, très rigolo, mais je pense que c'est un peu... ça renvoie un peu à ce qu'il y avait dans les fichiers plus tôt, c'est-à-dire une espèce de culture de l'égalité. C'est important, mais pour tout, en fait, je pense. Voilà. Pas se penser supérieur ou inférieur parce qu'on fait telle ou telle chose, ou qu'on est un homme ou une femme. Voilà, simplement.
Et moi, je vais peut-être te laisser rebondir aussi, notamment avec les chiffres de la musique classique. C'était des chiffres qui, notamment, donc il y a la question, donc c'est opéra-orchestre, avec toute la question de la conception et après de l'interprétation. On se rend compte que toute la question de la chorégraphie dans l'opéra-orchestre, il y a quand même un pourcentage élevé. Tout s'entend, mais c'est quand même assez élevé dans toute la question de la chorégraphie. Et tout ce qui est la question de la direction musicale, c'est vraiment... les chiffres sont vraiment très bas, quoi. C'est direction musicale par des femmes, c'est vraiment 10% opéra et orchestre. Pareil pour la composition. On se rend compte aussi, c'était dans l'interprétation, il y a quand même un grand écart entre opéra et orchestre. Pour des solistes vocales, 10% pour l'opéra contre 44% dans les orchestres. Et les solistes instrumentales, 3% dans les opéras contre 30% dans les orchestres. Donc il y a vraiment quand même une grande différence de chiffres entre les opéras et les orchestres. Donc ça, c'est sur un panel de 340 spectacles. Hein. Je laisserai les personnes regarder le graphique. Et vraiment, moi, au niveau des chiffres, je trouve que ça montre vraiment l'évaporation des femmes sur les postes un peu de direction, d'écriture. On parle de plus en plus des compositrices, parce qu'il y a plein de compositrices classiques qui ont été complètement oubliées. Et c'est vrai, c'est comment tout d'un coup ces femmes qui travaillent dans le classique, que ce soit dans la direction, que ce soit en tant que musicienne, soliste instrumentale ou dans le chant soliste vocal, c'est comment on met en valeur leur travail, comment il y a une sorte vraiment de travail, de recherche, de remettre en avant toutes ces femmes. Et je trouve que ça fait aussi le lien avec le jazz ou même les musiques actuelles, c'est que tout d'un coup, comment le chant des fois peut être un petit peu... mais on fait une sorte de différence entre chant et instrument, alors que ça ne devrait, devrait pas être le cas. Et toi, Marine, toi, tu fais de la trompette. Donc, c'est vrai que ça reste un instrument. Après, moi, je me suis un peu amusée à regarder un peu ce qui se passait dans les conservatoires PACA, de la région PACA. Voilà, on se rend compte que quand même, tout ce qui est instrument, les cuivres et tout ça, ça reste encore très, très, très masculin, quoi. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu le
oui,
ressens?
Je sais pas ce que tu as trouvé, mais il me semble que en PACA, je crois pas qu'il y ait de femmes profs dans les grands conservatoires. En tout cas, je crois pas qu'il y ait de femmes profs dans les cuivres. Mais pour revenir sur cette histoire d'inégalité, moi je suis à fond en ce moment dans la recherche de femmes compositrices pour un projet avec des élèves. Elles existent, ces femmes compositrices, elles existent, mais peu importe le style, elles existent. Simplement, à un moment, on a considéré que peut-être ce qu'elles écrivaient, c'était moins bien. Ce qui est marrant quand on sait que... je vais prendre cet exemple parce que c'est celui qui est beaucoup dit, mais qui parle beaucoup. Schumann, qui est un très très grand compositeur de l'époque romantique, il a écrit des choses fantastiques. Il avait donc sa femme, Clara Schumann, qui a écrit beaucoup beaucoup de choses, elle aussi, de très belles choses, et on sait aussi qu'il s'en est beaucoup inspiré. En fait. Et donc c'est un peu elle aussi qui est un peu l'image, la femme qu'on met en premier quand on parle des femmes compositrices, parce que c'est assez assez révélateur en fait de ce qui se passe, à savoir que oui, les hommes ont le droit de s'inspirer des femmes. C'est pas la honte. c'est cool. Donc ouais, on en avait un petit peu parlé ensemble, mais il y a le festival des présences féminines à Toulon qui met en lumière toutes ces femmes en fait, compositrices, metteuses en scène, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, elles essayent vraiment d'axer ce festival sur la femme et sur à quel point elles sont capables de faire beaucoup de choses. Moi, pour ce qui me concerne de mon instrument, on est là. Il y a des femmes qui font de la trompette, et d'autres instruments, d'autres cuivres, mais c'est vrai qu'elles sont moins représentées. Et je dirais même en dehors des cuivres aussi, il y a tout récemment l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui est un orchestre mythique, a recruté en première violon solo une femme. Et c'est un événement. Et je trouve ça super, mais ça devrait pas être un événement, en fait. ça devrait juste être... comme toutes les annonces, quoi. Une telle est nommée premier violon solo de l'orchestre. Et c'est super, on fait ça. Mais ça devrait pas être un événement.
Ça fait penser à... Moi, il y a quelque chose qui, dans le monde du classique, que j'adore, c'est les auditions à l'aveugle. Oui. Derrière les paravents. Et c'est comme ça qu'ils sont... un moment, parce qu'en fait, c'était pas forcément pour favoriser les femmes, c'est que comme dans les jurys d'entrée en orchestre, il y avait concrètement les profs des élèves qui passaient, on voyait que systématiquement, ceux qui étaient recrutés, c'était les élèves du jury, quoi. Oui. Du coup, ils ont voulu mettre un paravent, et puis à l'aveugle, quoi. Et là, on s'est rendu compte, mais d'un coup, que ça a fait un saut en termes de pourcentage de femmes, parce qu'effectivement, t'as une femme qui arrive avec un tuba, tout de suite tu vas dire ok, c'est un instrument, c'est trop lourd, elle aura pas assez de souffle et tout, ça doit te parler, tout ça. Et je me dis, mais il faut faire ça partout, quoi. Ah ouais. Moi, qu'est-ce que j'adorerais passer des auditions comme ça, juste à l'aveugle, quoi. T'es là pour ta musique, pour le groove, t'es pas là pour forcément l'image de ce que tu renvoies et tout. Enfin, voilà, en tout cas, ça m'avait beaucoup inspirée et ça fonctionne. Et il y a beaucoup de gens qui s'en inspirent.
Et je crois que c'est aux États-Unis. Enfin, il y a certains pays qui sont même allés plus loin, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient capables de... Enfin, il y avait visiblement une différence quand on entendait des chaussures qui semblaient être des talons de femmes.
Waouh.
Donc on va... Oui, on va plus loin, voilà.
Audition à l'aveuglette et en chaussettes.
Chaussettes.
Avec des moquettes. Avec des moquettes, bien sûr, pour pas entendre.
Tout le monde en pantoufle.
Ça, c'est un truc... moi, je sais que je vais jamais ou rarement en audition avec des chaussures à talons. Je mets toujours des chaussures qui vont pas faire de bruit.
Ah, mais t'y penses.
Bien
c'est
sûr.
Incroyable. Enfin, c'est
incroyable.
Comment je m'habille ce soir pour rentrer
dans
la maison, quoi.
J'y pense parce qu'un des premiers concours que j'ai fait, et c'était... Enfin, j'ai pas du tout de colère. C'était tellement drôle, mais j'ai passé un concours à 18 ans pour l'armée. On va pas dire qui, mais pour une certaine musique d'une certaine armée. Et on était 10 candidats, donc 2 filles pour 8 mecs, quoi, en gros. Bon, déjà, ça annonce la couleur, mais ça, j'ai l'habitude. Enfin, je veux dire, c'est plus un truc qui me perturbe. Et quand je suis arrivée, c'est vraiment la première fois que ça m'a fait un choc, quoi. Quand je suis arrivée dans la salle pour faire le concours, ils m'ont regardé comme si... comme si c'était improbable, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là, la dame ? Et ça m'a vraiment marqué. Et pourquoi vous voulez faire ça ? Je sais pas, je sais pas. du coup je sais plus, j'ai un doute là, mais ouais c'était vraiment, je sais pas, parce que je fais de la musique et que ça me dit de gagner ma vie avec, voilà, tout simplement.
Et toi, pourquoi tu fais l'armée?
Non mais ouais, c'était vraiment hyper hyper troublant quoi, donc mais je pense que ça va quand même de mieux en mieux, il y a de plus en plus de femmes qui on le voit hein, d'ailleurs, oui, on le voit de plus en plus de femmes qui osent et qui n'ont plus peur de faire un instrument d'homme.
Mais pour la petite anecdote avec le conservatoire, moi je me suis présentée avec une copine il y a 4 ans je crois ou 5 ans, conservatoire désolé de Marseille, on voulait faire de la trompette et en fait elle nous a dit non mais de toute façon déjà vous êtes trop vieille, nous après 8 ou 9 ans on prend plus, enfin déjà en débutant quoi, et elles nous ont dit mais faites du chant.
Et yes. Ouais, bon, ça, les questions d'âge dans les conservatoires, c'est de plus en plus fréquent parce qu'on prend plus des adultes pour X ou Y raison. Mais le fait du chant, il est beau.
Et même en cursus loisir, on est hyper motivés et tout. Toutes les deux, on arrive, on vient s'inscrire et tout. Ah ben non. Mais allez en chant. Ah oui, vous avez déjà fait un peu l'IMFP, du jazz. Oui, mais allez en chant. Mais je veux faire de la trompette.
Tu ne m'écoutes pas. Ouais. Bah, ce qui est intéressant, ce que tu disais au niveau des instruments. Même s'il y a bien sûr des évolutions, il y a quand même aussi des choses qui sont quand même encore assez actées, comme on voit, assez ancrées dans les conservatoires. Et donc, toute la question des stéréotypes liés au genre. Et ça me permet de faire la transition.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Association avec la Gare de Coustelet, et Instagram, avec Gare Coustelet.